Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez dans quelques secondes, toute l'info avec le journal. 19h15, la carte blanche du Club des Idées. Coup de cœur ce soir du journaliste Éric Fotorino. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à devenir cadres et c'est tant mieux, nous dira-t-il. 19h20, le grand débat du Club des Idées, émission interactive ce soir comme à chaque fois sur la révolution du genre. Le modèle binaire garçon-fille est aujourd'hui questionné. Alors, qu'est-ce que ça révèle concrètement de notre société? Est-ce souhaitable pour une meilleure égalité des sexes par exemple? On en débattra avec nos invités. Et vos témoignages qu'on attend nombreux, vous verrez, c'est absolument passionnant. Le journal d'abord avec Christophe Lamarre. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Le gouvernement maintient le cap du sur-mesure en matière de restrictions sanitaires. On saura demain quel sort il réserve à la vingtaine de départements toujours sous surveillance.
L'épidémie continue de jouer avec nos nerfs. Elle recule dans certains départements comme la Moselle, mais en Seine-Saint-Denis ou dans le Pas-de-Calais, elle regagne du terrain.
L'enquête interne à la Fédération française de rugby dédouane le sélectionneur Fabien Galthié qui avait pourtant crevé la bulle sanitaire. Il n'est pas celui qui a importé le virus et contaminé les joueurs du 15 de France.
Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de la France dans l'assassinat de l'avocat Ali Boutmedel pendant la guerre d'Algérie, l'œil de Didier François, spécialiste des questions internationales dans ce journal.
Et puis un auteur de best-seller qui décide de s'auto-publier, décision étonnante, mais c'est le choix qu'a fait Joël Dicker, les explications de Nicolas Carreau.
La météo, Anissa Haddadi, qui nous annonce une ambiance un peu plus grise et humide demain.
Oui, effectivement, puis surtout une baisse des températures, hein, Julien, demain. On va perdre 2 à 3 degrés dans le sud, jusqu'à 6 degrés en moins sur la moitié nord. Dans le ciel, vous le disiez, c'est gris au nord, plus ensoleillé dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On saura demain soir si le gouvernement donne un tour de vis supplémentaire dans les 20 départements où l'épidémie reste forte. Près de 3600 malades sont actuellement en réanimation et l'on a encore déploré 301 décès hier. Victor Dolande, on va donc prendre la carte de France et à y regarder de plus près. Il y a des territoires qui inquiètent plus que d'autres.
Oui, certains ont vu leur taux d'incidence monter en flèche ces derniers jours. C'est le cas du Pas-de-Calais et de la Seine-Saint-Denis qui dépassent les 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours, bien au-dessus du seuil d'alerte maximale fixé à 250 par les autorités sanitaires. Et si certains territoires connaissent une progression constante de l'épidémie, notamment le Val-de-Marne, le Var ou Paris, d'autres départements connaissent une légère accalmie, on pense à la Moselle ou aux Alpes-Maritimes. Le confinement le week-end, déjà appliqué à Nice, pourrait peut-être porter ses fruits. Mais comme le rappelle Victoria Colizza, spécialiste en modélisation de maladies infectieuses, qui était l'invitée d'Europe Soir à 18h20, il faut rester très prudent.
On s'attend bien évidemment qu'il soit efficace. La question la plus importante est de combien il est efficace, pour combien de temps ça va durer. Parce qu'on se trouve dans des conditions où, effectivement, chaque mesure va nous aider pour un certain temps, mais on lutte avec un variant britannique qui est plus contagieux de l'autre.
Un variant britannique désormais majoritaire, notamment à Paris. Et puis dans cette carte de France de l'épidémie, il y a aussi les départements qui n'étaient pas encore placés sous surveillance, mais qui enregistrent un rebond de la circulation du virus. C'est le cas notamment de la Corse du Sud, de l'Orne, de l'Aube, des Deux-Sèvres, des Hautes-Alpes et de la Corrèze. Autant dire que le gouvernement va avoir bien des difficultés avant de prendre des nouvelles mesures demain.
Merci Victor Dolande. Le gouvernement qui envoie tout de même un message, un signal d'espoir. Le retour à une vie plus normale est à l'horizon.
Peut-être dès la mi-avril, c'est ce qu'a expliqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, à l'issue des deux conseils, celui de défense sanitaire et celui des ministres. Jean Castex prendra la parole demain soir à 18h. On saura alors si de nouvelles restrictions sanitaires sont au programme.
L'horizon se dégage. En revanche, pour un homme, Fabien Galthié n'est pas le patient zéro qui a contaminé le 15 de France de rugby.
Mystère résolu par l'enquête menée en interne. On rappelle que plusieurs joueurs avaient été testés positifs au Covid. La moitié de l'équipe écartée pour raisons sanitaires et un Français reporté faute de combattants. Les soupçons se sont portés sur Fabien Galthié qui avait crevé la bulle sanitaire, mais finalement, ce n'est pas lui, c'est l'équipe de rugby à 7 qui a fauté, Axel May.
Oui, à travers cette enquête interne, il s'agissait déjà de comprendre comment est entré à Marcoussis le virus. Verdict, c'est par un jeune joueur de l'équipe de France de rugby à 7, équipe qui a servi de partenaire d'entraînement au 15 tricolore. Il avait passé les tests PCR négatifs, mais était en période d'incubation, ce qu'il ignorait évidemment. C'est ensuite un préparateur physique et le sélectionneur Fabien Galthié qui ont été touchés, jusqu'à générer un cluster. Plus de 15 personnes, joueurs et staff compris. Le professeur Roger Salamon pilote la commission médicale de la Fédération française de rugby, et pour lui, le protocole sanitaire a été respecté.
À mon niveau, en regardant tout ce que j'ai regardé, je n'ai trouvé aucun manquement. Et plus directement, ce qu'a fait Fabien Galthié en allant voir son fils n'est absolument pas un manquement au protocole, premièrement, et deuxièmement, n'a aucune relation avec ce qui s'est passé au niveau du cluster, ne serait-ce que pour des raisons évidentes de chronologie, ça je peux l'affirmer.
Vous l'avez entendu, Fabien Galthié, en allant voir son fils, lui-même un rugbyman, n'a pas percé la bulle sanitaire. Cette contamination, c'est la malchance, résume le professeur Salamon. C'est maintenant au ministère des Sports de se prononcer sur ce rapport. Ses conclusions sont attendues demain.
Axel May du service des sports d'Europe 1. L'enquête sur l'agression d'un photographe à présent à Reims. Un homme est mis en examen et écroué ce soir. Il est soupçonné d'avoir violemment agressé le journaliste en plein reportage. C'était vendredi dernier. La victime est toujours hospitalisée dans un état jugé critique.
Et puis Emmanuel Macron vient de reconnaître la responsabilité de la France dans l'assassinat d'Ali Boumendjel. Cet avocat indépendantiste avait été arrêté par les parachutistes au cours de la bataille d'Alger.
Et on en parle donc ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ce geste a une forte portée symbolique. C'était l'une des recommandations du rapport sur la guerre d'Algérie remis en janvier au président de la République par l'historien Benjamin Stora.
Alors absolument, l'idée étant que 60 ans après la fin des combats, ce sera le 19 mars, il est enfin temps d'aborder cette période de manière sereine, regarder les choses en face, sans avoir à cacher ni travestir les faits, mais sans devoir non plus se confondre en excuses ou en contrition, qui de toute façon, en matière de recherche historique, sont des notions sans la moindre pertinence, et qui du point de vue politique ont le formidable inconvénient d'être considérées comme toujours trop par les uns ou jamais assez par les autres. Donc la feuille du président de la République était tout à fait claire à cet égard, puisqu'en commandant ce rapport sur la mémoire à Benjamin Stora, il avait résumé sa démarche en une formule qui était oui à la reconnaissance, mais non à la repentance. Et donc la reconnaissance, eh bien, c'est d'admettre que l'avocat Ali Boumendjel, arrêté par les parachutistes français au plus fort de la bataille d'Alger, a bien été torturé et assassiné le 23 mars 1957, défenestré, sa mort ayant été maquillée en suicide. Ce qui d'ailleurs n'est en rien une révélation. Le général Ossarès, qui menait alors les interrogatoires pour la 10e BP, avait déjà, la brigade parachutiste, avait déjà avoué ce crime dans ses mémoires en 2001, tout comme l'assassinat d'ailleurs du militant communiste français Maurice Audin, qu'Emmanuel Macron avait déjà reconnu en 2018.
Alors la question c'est, est-ce que ce geste pourra relancer enfin le dialogue mémoriel avec l'Algérie?
Bah franchement, rien n'est moins sûr, parce que le pouvoir algérien reste extrêmement réticent à ouvrir un débat historique sincère qui pourrait l'amener à devoir reconnaître la responsabilité du FLN dans le massacre de ses opposants, avec l'exécution en masse des harkis après l'indépendance, mais aussi la liquidation de tous les courants indépendantistes dissidents, et cela jusque dans ses propres rangs. Alors c'est un sujet beaucoup trop sensible pour que l'armée algérienne s'y risque, même si le président Tebboune semble prêt à faire quelques concessions. Mais en fait, tout ça ne change rien au fait que la France continue d'avancer. L'enjeu de l'apaisement mémoriel, en fait, est valable pour notre société, et cela indépendamment des humeurs algériennes sur le sujet.
Merci mon cher Didier. Didier François, spécialiste des questions internationales, à tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h09. Un enfant sur 10 dont les parents sont séparés vit donc en résidence alternée aujourd'hui. Le chiffre peut paraître faible et pourtant il est en augmentation.
Oui, on rappelle que c'est le fait de passer une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre parent séparé. Un chiffre en augmentation, oui Julien, mais pas partout Virginie Riva.
Oui, la résidence alternée, c'est le fait pour des enfants dont les parents sont séparés de vivre la moitié du temps chez chacun d'entre eux. La loi le rend possible depuis 2002 et effectivement, depuis, c'est en augmentation. Ils sont 480 000 aujourd'hui. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Il s'agit surtout de parents avec des diplômes du supérieur, plutôt des cadres. On le comprend, il faut un niveau de vie élevé pour pouvoir accueillir les enfants dans deux logements séparés. Il s'agit majoritairement de parents qui vivent dans l'Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est plus rare en région parisienne où les logements sont plus chers et où il n'est pas simple d'en trouver deux à proximité. Enfin, la résidence alternée est une solution qui est surtout privilégiée pour les enfants autour de 10 ans. Avant 4 ans, ils restent principalement chez leur mère. Puis après 10 ans, ça diminue, notamment parce que les enfants sont aussi plus consultés et peuvent choisir d'aller chez l'un ou l'autre de leurs parents.
Merci pour ces explications Virginie Riva. Du côté de Danone, les fonds d'investissement réclament toujours le départ du PDG, Emmanuel Faber.
Ils avaient déjà obtenu qu'il abandonne les pleins pouvoirs. Emmanuel Faber avait accepté de scinder les fonctions de président et de directeur général, mais l'un des fonds américains dénonce son maintien à la présidence et réclame son départ.
On peut parler d'événements dans le monde de l'édition. Un auteur de best-seller décide de s'éditer lui-même.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous connaissez le dicton. C'est peut-être ce qui a trotté dans la tête de Joël Dicker, allez savoir. Il a donc annoncé qu'il quittait son éditeur. Il va tout gérer tout seul, Nicolas Carreau.
Exactement. Joël Dicker doit pourtant sa carrière fulgurante à cet éditeur, Bernard de Fallois. Il est mort en 2018, c'était une légende de l'édition et il a pesé de tout son poids à l'époque pour faire connaître Joël Dicker. Résultat, la vérité sur l'affaire Harry Kéber s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est gigantesque en 2012. Maintenant, l'écrivain veut voler de ses propres ailes.
Ça a été une décision difficile à prendre. Vous savez combien je suis attaché à cette maison et toute l'histoire qui me lie à elle. Mais j'avais le sentiment depuis quelques années, depuis la disparition de Bernard, qu'il allait falloir tôt ou tard que je prenne un nouveau chemin. Et en même temps, j'ai toujours dit qu'après Bernard, il n'y aurait personne. J'ai donc décidé de créer ma propre maison d'édition.
Il n'en dira pas plus. S'agit-il d'une maison d'édition pour lui seul ou pour publier d'autres auteurs? Il donne rendez-vous à l'automne prochain et la maison d'édition sera lancée le 1er janvier 2022.
Nicolas Carreau. Il y a du football même en semaine, Julien. La 28e journée de Ligue 1 vient de démarrer. 5 rencontres ont débuté. On va directement tout de suite au Groupama Stadium à Lyon. L'OL reçoit Rennes. Match très important pour les deux équipes, mais pas pour les mêmes raisons, Maxime Cheuch.
Effectivement, bonsoir Christophe. Vous le disiez, l'Olympique Lyonnais doit prendre absolument les 3 points de la victoire pour rester dans cette passionnante lutte à 4 en tête de la Ligue 1. Rudy Garcia, l'entraîneur lyonnais, a procédé à 4 changements par rapport à l'équipe qui a fait match nul dimanche à Marseille, avec notamment la titularisation d'Islam Slimani sur le front de l'attaque. Les Lyonnais espèrent bien profiter de la grosse méforme du Stade Rennais, médiocre 9e du championnat de cette Ligue 1 et dont le coach Julien Stéphan a démissionné depuis samedi dernier. Les Rennais qui sont entraînés ce soir provisoirement par Philippe Bizzle. Et après 14 minutes de jeu, il y a toujours 0-0 entre les deux équipes.
Maxime Cheuch en direct du Groupama Stadium. 5 autres rencontres débuteront à 21h et notamment Bordeaux-PSG et Lille-Marseille.
Et puis cette dernière minute qui nous vient de Suède, où on apprend par la police que 8 personnes auraient été blessées à l'arme blanche dans ce qui s'apparente être une attaque terroriste. C'est ce qu'on apprend à l'instant de la part de la police suédoise. Merci Christophe, c'était le journal de Christophe Lamarre. 19h13, la météo avec Anissa Haddadi. Anissa qui nous annonce des températures qui commencent à baisser dans une ambiance plus grise et humide, ma chère Anissa.
Fini le printemps sur la moitié nord, en tout cas pour l'instant et jusqu'à samedi matin. On va avoir un temps gris effectivement sur la moitié nord du pays demain. Du Poitou jusqu'à l'Alsace, le passage d'une perturbation apporte sur toutes ces régions des nuages et des averses toute la journée. Sur la moitié sud, nous avons encore de nombreuses entrées maritimes au bord de la Méditerranée, notamment du côté du golfe du Lion et du Languedoc-Roussillon. Ces entrées maritimes vont se dissiper à la mi-journée et dans le sud, nous aurons un ciel partagé entre nuages et éclaircies. C'est-à-dire qu'il va faire beau, mais le ciel sera un petit peu plus laiteux qu'aujourd'hui. L'atmosphère reste tout de même assez sympathique. Et vous le disiez, Julien, les températures, elles baissent à partir de demain et c'est que le début d'une très belle chute. Nous aurons moins 1 degré à Manosque, 0 au Puy-en-Velay, 2 degrés à Clermont-Ferrand le matin, 4 à Besançon et Montpellier, 6 à Nice et Poitiers, 7 à Paris, et puis jusqu'à 9 degrés à Biarritz. Dans l'après-midi, seulement 7 à 12 degrés sur le nord et 13 à 18 sur la moitié sud.
Vous dites une très belle chute, vous. Une très belle chute. Pour des températures, je dirais plutôt une mauvaise chute, parce qu'il va faire plus froid.
Oui, il va faire plus froid. J'essaye de trouver un peu de positif partout,
vous avez raison,
vous le savez, Julien. Hein.
En tout cas, le soleil sera toujours là, a priori, un peu de douceur, mais dans la fraîcheur. Merci Anissa, et à demain, évidemment, à partir de 18h. À 19h15, dans quelques secondes, le Club des Idées. On vous dira tout ce soir sur le débat qui agite la jeunesse concernant le genre. D'abord, la carte blanche offerte ce soir au journaliste Eric Fotorino.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Eric Fotorino.
Bonsoir Julien.
Patron du 1 Lebdo et de la revue Zadig, dont le dernier numéro sort en kiosque, je l'ai entre les mains. Couverture rouge avec des femmes, le point levé. Et ça s'appelle Femmes, une révolution française. Pourquoi c'est une révolution, Eric?
Alors, c'est une révolution, on pourrait dire, silencieuse, parce qu'on ne la voit pas toujours, mais lorsqu'on regarde des indicateurs objectifs, j'en prends 3 ou 4 parmi beaucoup d'autres, vous voyez, en 68, dans le marché du travail, il y avait moins d'une femme sur deux qui entrait sur ce marché. Aujourd'hui, elles sont 85%. Si vous prenez les études universitaires, aujourd'hui, 27% des femmes ont travaillé 3 ans à l'université après le bac. 19% pour les garçons. Et lorsque vous regardez le taux de femmes chez les cadres et ce qu'on appelle les professions intellectuelles supérieures, eh bien 4% au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir il y a 40 ans, et aujourd'hui 16%. Alors, ce n'est pas la panacée. La révolution, ça ne veut pas dire une société idéale.
Oui.
Ça veut dire simplement qu'il y a un mouvement réel qui va vers l'égalité, qui va vers moins de discrimination, mais il y a encore, évidemment, à faire.
Parce que c'est l'objet, évidemment, on l'a compris, de votre coup de cœur ce soir, et c'est l'objet de ce grand dossier dans votre revue, numéro 9, Zadig. En somme, vous dites, pendant cette année de crise de la Covid, il s'est passé quelque chose, c'est cette révolution des femmes que vous venez de nous expliquer. Alors, il y a beaucoup de progrès, mais des droits et des places encore à conquérir, d'égalité encore insuffisante, dites-vous, et de rôle à jouer bénéfique pour la société.
Oui, alors c'est vrai que c'est la philosophe Corinne Pelluchon, qui n'est pas dans ce numéro, mais qui le dit souvent, c'est plus la lutte des classes, mais c'est la lutte des places. Et effectivement, on voit bien que la pandémie a fait reculer cette avancée des femmes, dans la mesure où elles ont été réassignées on a genré de nouveau, d'une certaine manière, les occupations, notamment au foyer, à la maison, avec les enfants et le télétravail.
Oui, et puis vous dites, elles ont été aussi en première ligne, EHPAD, hôpitaux, caisses de supermarché, télétravail avec les enfants, vous venez de le dire.
Mais si je prends deux voix qui s'expriment très fortement, qui sont assez antagonistes, deux féministes pourtant, Elisabeth Badinter et Alice Coffin, la philosophe Elisabeth Badinter et la militante féministe, gay, lesbienne, Alice Coffin. Eh bien, Elisabeth Badinter dit, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour les femmes? Encore, c'est la double journée. C'est le fait que lorsque vous travaillez deux fois, une fois dans votre travail professionnel, une fois à la maison avec les enfants, ça, évidemment, la course à l'égalité ne peut pas, vous ne pouvez pas la gagner, puisque vous aurez des trous dans votre parcours professionnel, dont votre salaire ne sera pas, n'évoluera pas de la même manière. Et que dit Alice Coffin, elle? Elle dit, il y a encore un tel patriarcat, un tel sexisme, qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes une mère et que vous donnez la vie à des enfants, eh bien vous savez que votre petite fille aura moins de chance que votre petit garçon. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui reste enraciné. Donc la révolution, oui, mais c'est encore une révolution qui doit faire et qui doit encore faire sa nuit du 4 août, on va dire.
Bien, merci Eric Fotorino pour ce coup de cœur. C'est un dossier à retrouver donc dans la revue Zadig. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse donc à cette révolution du genre dont on parle tant. C'est un fait, le modèle binaire garçon-fille est aujourd'hui questionné dans l'identité des jeunes, dans l'éducation, dans la publicité. On en parle beaucoup, c'est vrai. Alors qu'est-ce que ça révèle de notre société? Est-ce souhaitable pour une meilleure égalité des sexe, comme on l'entend parfois dans la société? Pourquoi ça dérange aussi? Est-ce toujours tabou? On en parle donc ce soir avec nos invités, et notamment Hélène Singier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, membre du comité éditorial de l'hebdomadaire Le 1, qui consacre donc une grande enquête à la question du genre, et merci de votre présence pour en parler à mes côtés. On en parle également avec Christian Flavigny. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, auteur du livre La querelle du genre, faut-il enseigner le gender,
gender.
Au lycée, c'est aux éditions PUF et c'est sorti en 2017. Et puis on est également avec Arnaud Alessandrin. Bonsoir, vous êtes sociologue, spécialiste des questions de genre et des discriminations, auteur de « Déprivilégier le genre », c'est aux éditions Double Ponctuation, paru le mois dernier. On entendra aussi des témoignages tout au long de ce débat, jusqu'à 20h, vous en avez l'habitude, le standard est ouvert, n'hésitez pas. Alors, j'ai commencé par vous, Hélène Singier. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Est-ce que vous diriez que c'est un bon point de départ à notre débat ?
Oui, c'est un excellent point de départ, parce qu'en fait, la confusion qu'on a mise à jour en faisant ce travail sur le genre dans le 1, c'est qu'on a tendance, dans les sociétés occidentales en tout cas, à calquer les différences de sexe qui sont physiques sur les différences de genre qui sont sociales. Est-ce que je me sens homme ? Est-ce que je me sens femme ? Un peu des deux, ou ni l'un ni l'autre. Et donc, ce que dit Simone de Beauvoir, c'est que ces choses-là sont inculquées au fur et à mesure par la société, par les choses qu'on nous dit d'être ou de faire, et que, en fait, être femme, ça ne veut rien dire à la base. C'est un ensemble de clichés. Et la même chose pour être homme, d'ailleurs.
Alors, il y a une grande étude qui révèle que 22% des 18-30 ans, c'est absolument épatant, sidérant même, la proportion que ça prend, se considèrent non-binaires. Ni totalement homme, ni totalement femme, et préfère voir le genre comme un spectre. Qu'est-ce que ça veut dire, Christian Flavigny ?
Ça veut dire que vous parlez d'une révolution, mais il n'y a aucune révolution. Il y a un plaquage, une théorie américaine qui est, je dirais, qui fait l'impasse sur l'essentiel, qui est que, pour reprendre la je dirais, l'aphorisme de Simone de Beauvoir, on naît garçon, de verbe naître, et on le devient. Toute l'affaire est là, c'est là l'affaire psychologique. Donc il n'y a pas de séparation, il y a justement un processus qui fait que l'enfant, depuis son corps de garçon, va devenir garçon, et c'est une affaire complexe. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, comment infuse en lui le masculin, comment infuse en la fille le féminin, et d'une manière complexe. Alors, d'autant plus complexe...
Mais c'est ce que disait un peu Hélène Saint-Gilles, c'est-à-dire qu'on est aussi conditionné par son environnement, par la société, par son éducation.
Ça n'est pas un conditionnement. C'est un processus psychologique d'appropriation de son corps propre.
Mais de fait de l'environnement extérieur qui nous influence.
Il y a de l'influence extérieure, mais l'influence est complexe et elle est essentiellement centrée pour l'enfant sur les repères de ses parents.
Et vous ne pensez pas que c'est une révolution quand on voit la proportion des enfants qui aujourd'hui, et des jeunes, ce ne sont pas que des enfants, qui se revendiquent non-binaires pour reprendre
cette expression. La révolution, c'est dans les mots, mais pas dans les faits. Oui. Les jeunes ont toujours été dans une certaine complexité. C'est le propre de l'adolescence que de se chercher.
Mais ce n'était pas verbalisé comme aujourd'hui.
Alors, on met des mots américains maintenant là-dessus. Oui. C'est pour ça que je parle d'une influence américaine que je trouve très discutable d'ailleurs. Et effectivement, ce terme de gender fluid qui miroite comme comme une explication. Mais effectivement, il y a un processus de l'adolescence.
Vous allez voir, on va être concret tout à l'heure, on va voir ce qu'il y a derrière. Peut-être une réaction, Arnaud Alessandrin, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ou est-ce que vous validez que oui, c'est une forme de révolution quand même à laquelle on est en train d'assister dans la jeunesse ?
Oui, je crois réellement que nous sommes face à une révolution. Je m'inscris donc en faux vis-à-vis de ce qui a été dit. Je crois que, pour reprendre les mots de Simone de Beauvoir, nous ne naissons pas femmes, nous le devenons ou pas, parce qu'on n'est même pas obligé de devenir une femme ou un homme. Je ne crois donc absolument pas en une importation de théories américaines, mais plutôt dans une réappropriation, d'ailleurs très réjouissante, de nouvelles identités, de nouveaux rapports au corps, de nouvelles façons d'être dans son genre, tout à fait libératrices.
Bien, vous restez évidemment avec nous, Hélène Saint-Gilles. Je vais vous poser une question un peu bête, pardon, mais tous les gens qui nous écoutent, c'est un sujet qui suivent de loin. Parfois, on a des a priori, on peut être contre, on peut être pour d'une certaine manière. Vous, vous dites, il n'y a pas à être pour ou contre, parce qu'on assiste à un état de fait. C'est comme ça, il y a une évolution de la jeunesse aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je reprends un exemple donné par un ami récemment. Il dit, sa coiffeuse va arrêter de faire une différence de prix entre les coupes hommes et les coupes femmes, parce qu'en fait, il demande les mêmes choses.
Ça passe par ça.
Il demande les mêmes choses. Et donc, en fait, être homme ou femme, garçon ou fils, n'est pas la même chose qu'être mâle ou femelle. Ça, c'est une chose très importante. Être mâle ou femelle, c'est un corps. Ce sont nos chromosomes, nos gonades, c'est-à-dire ovaires ou testicules, nos attributs sexuels. Oui.
Donc il ne s'agit pas de nier la différence physiologique, parce qu'il y en
exactement.
A quand même.
Il y a une différence physiologique. Il y a une différence physiologique. Ce que nous dit le sociologue Éric Massé, c'est que 49% des corps sont mâles, 49% des corps sont femelles, et il y a entre 1 et 2% des corps qui sont intersexes, qui ont par exemple des chromosomes mâles et des ovaires.
Mais donc, pardon,
là, on parle d'intersexes, des gens qui ont un corps qui n'est pas exactement mâle ni exactement femelle. Ça, c'est le sexe.
Oui.
Et l'autre chose, c'est le genre. Donc, c'est le masculin, le féminin. Est-ce que je me sens homme ou je me sens femme ? Non, pas est-ce que je me sens mâle ou femelle, c'est différent. Mmh. Et est-ce que je m'identifie au sexe qui m'a été assigné, au genre qui m'a été assigné à la naissance ? Oui. J'ai des seins, j'ai un vagin, j'ai des ovaires, mais est-ce que pour autant je me sens femme ?
Bien.
Et si je me sens homme, comment la société me traite ?
On va prendre quelques secondes pour intégrer ce que vous venez de nous dire. 19h28, on marque une première pause et on se retrouve avec nos invités et vos témoignages dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, passé de 1 minute, on poursuit le débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la révolution donc, du genre sur ce modèle binaire entre garçons et filles qui est aujourd'hui questionné, c'est vrai, dans l'identité des jeunes. Et dans tout un tas de sujets, on parlera notamment de la place de l'éducation. Vous verrez, c'est très très important sur ce point. Je voudrais vous faire réagir, les invités qui sont dans le studio à mes côtés, sur ce qu'on peut entendre aussi par des Français qui sont opposés ou qui ne comprennent pas cette révolution du genre. Une militante et un militant contre la théorie du genre qui était à notre micro, c'était il y a quelques mois. Écoutez par exemple.
qu'on veuille l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça ne me gêne pas du tout. Hein, et on y est tous favorables. Ce qui me gêne, c'est qu'on appuie beaucoup sur l'aspect social de la construction du genre, hein, sur les stéréotypes sexuels. Voilà, les filles, c'est comme ça, les garçons, c'est comme ça. On insiste beaucoup là-dessus. Mais on ne parle pas suffisamment de l'aspect biologique du garçon et de la fille. Et je suis désolé, mais nous disons qu'un garçon et une fille, il y a des différences biologiques. Et il faut les prendre en compte dans l'éducation.
Voilà, alors c'est un discours qu'on entend également beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Christian Flavigny? Vous êtes pédopsychiatre.
Oui, moi j'adhère à une petite partie de ce que vient de dire l'intervenant, qui est le côté social. Effectivement, la théorie du genre ne fait plus de l'affaire qu'un aspect social. Mmh. C'est le côté très américain de l'affaire. Par contre, le biologique, non. C'est l'aspect psychologique qui est essentiel. Alors moi, ce que je conteste dans ce qu'a dit Hélène Saint-Gier, c'est qu'elle est obligée, je dirais, de ramener le biologique à un aspect animal. Mais non, l'enfant sait très bien qu'il a un corps de garçon ou de fille. Ça n'est pas l'aspect animal. Par contre, la question de l'identification, elle a dit il faut que l'enfant puisse s'identifier. Mais non, la question pour l'enfant, c'est qu'il va chercher, il ne comprend pas pourquoi il y a deux sexes. Et l'identification, il va la chercher du côté de son père, oui, et de sa mère. C'est l'identification au père et à la mère qui va porter le processus complexe d'ailleurs. Alors, parce qu'il peut y avoir des tas de choses qui sont mal compréhensibles, mais c'est ça qui porte le processus, qui infuse le masculin ou le féminin, et parfois un mélange des deux.
Alors, on va parler du rôle de l'éducation. On va écouter un premier témoignage dans quelques secondes d'un jeune, justement, qui se considère comme non-binaire. Je voudrais simplement votre réaction d'abord, Arnaud Alessandrin, sociologue spécialiste des questions de genre et des discriminations, sur ce que cache et sur ce que peut changer cette question de questionnement autour de l'identité de genre. Est-ce qu'au fond, il y a l'idée d'un monde qui effacerait les logiques de pouvoir et de domination qui ont jusqu'ici prévalu? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est ça qui se cache derrière la question du genre?
Écoutez, je pense qu'on va être tout à fait pragmatique. Ce qui se cache derrière la question du genre, ça relève à la fois, bien sûr, de la lutte contre les inégalités, de la lutte contre les discriminations, et ça emprunte des chemins féministes, évidemment. Mais ça permet aussi de souligner l'importance pour les individus, on peut penser aux personnes intersexes, aux personnes trans, aux personnes non-binaires, de vivre leur identité comme elles l'entendent. Et je crois qu'on peut le dire aussi tout à fait nettement, les influences du père et de la mère sont certes présentes, mais elles font partie d'un lot d'influences, oui, bien plus vaste, notamment des pairs PAIRS, qui aujourd'hui doit être pris en considération.
Alors on a un jeune qui est avec nous, qui s'appelle Osmose. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 25 ans et vous considérez comme non-binaire depuis toujours, dites-vous, car pour vous, il n'y a pas de carcan entre hommes et femmes, ce sont des concepts. Vous dites le genre est un concept social et moi, je ne me définis pas par rapport à ça. Est-ce qu'en quelques mots simples, vous pouvez nous expliquer?
Ouais, pour moi, c'est assez simple. En fait, on ne naît pas avec un genre, on est avec un corps. Mmh. Et donc ça, c'est une réalité biologique sur laquelle on a assigné un genre, qui est le concept social. Du coup, le genre, ce n'est pas une réalité biologique, c'est un concept autour duquel les sociétés ont forgé leur société, quoi, oui, mais qui n'est pas une réalité, en fait.
Mais vous considérez plus homme, plus femme, un peu des deux?
Non, je considère que je suis né avec un corps qui est tel qu'il est, donc là, en l'occurrence, qui a un pénis, mais que cela ne veut pas dire que je suis un homme. En fait, on a genré les génitaux, on a genré les corps, et à partir de ça, y a plein de conséquences qui se sont faites dans nos façons de penser. Oui. Mais en fait, si on remet ça en question, y a plein de choses qui changent. Et notamment, on pourra réduire les rapports de domination.
Je vais vous poser une question un peu personnelle. Est-ce que vous vous sentez heureux de vous considérer ni femme ni homme?
Je veux dire... Oui. Est-ce que c'est heureux? Enfin,
non, mais je vous pose la question un peu bêtement et un peu naïvement.
Oui, je ne sais pas, est-ce que vous considérez heureux de vous définir comme homme?
Non, mais est-ce que vous définissez comme homme, d'ailleurs? Sentez plus heureux, plus accompli, plutôt que de vous définir d'un des deux genres?
Je me sens juste. Je sens, oui, que ça sonne juste, en fait. Pour moi, c'est très, très logique et très, très limpide. Et pour moi, le monde va juste s'en rendre compte, en fait, par la logique, en fait.
Bien, merci beaucoup Osmose, vous avez 25 ans, merci infiniment pour ce témoignage. Réaction peut-être Hélène Saint-Gilles à ce qu'on vient d'entendre?
Oui, c'est très intéressant. Dans le numéro du 1, j'ai fait une enquête à propos de l'éducation, donc non pas sans genre, puisque c'est très, très, très minoritaire en France. Mmh. Mais l'éducation non sexiste, on va dire, des parents qui essayent de ne pas inculquer trop de clichés sexistes à leurs enfants.
Oui.
Et alors, ça fonctionne les premières années, puis après, il y a l'école et tout un tas d'autres influences. Mais ce que disent beaucoup les parents, c'est qu'ils y viennent soit par le féminisme, en disant « je ne voudrais pas que mon fils soit un macho ou que ma fille soit victime du patriarcat ». Ils y viennent aussi par la non-violence, en disant que assigner un genre, en tout cas assigner des clichés, des stéréotypes de genre à un enfant, c'est une violence. Tu ne dois pas faire ça parce que tu es un garçon. Ne fais pas ça parce que tu es une fille. Ne monte pas, attention. Ne porte pas porte des robes et arrête de courir, etc. C'est une violence. Et puis, il y en a qui y viennent par la philosophie plutôt punk, etc., en disant que c'est des choses de l'ordre de la hiérarchie sociale et qu'il est hors de question de caser les enfants dans ce genre de catégorie.
On touche un autre aspect de la question du genre qui est beaucoup plus simple à définir d'une certaine manière. Arnaud Alessandrin, vous êtes sociologue et spécialiste de ces questions-là. C'est effectivement l'éducation moins genrée qui commence à faire son chemin, y compris chez nous en Europe et en France. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a encore un peu de boulot, parce que c'est vrai que quand on se rend dans un magasin de jouets, par exemple, il y a le rayon pour les filles, avec les poupées, qui est plutôt rose, et puis il y a le rayon pour les garçons, avec les jouets qu'on appelle masculins, qui sont plus dans la force. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là, c'est le comparatif que vous citez dans l'un de vos articles, Hélène Singier, sur les coffres récréatifs. C'est très symptomatique, parce que d'un côté, il y a les coffres pour les filles, fabrication de bijoux, et de l'autre, il y a les coffres pour les garçons, petits chimistes. Ça aussi, ça conditionne d'une certaine manière Arnaud Alessandrin.
Entièrement raison, hein, quand vous parlez d'éducation, d'insister sur le fait que l'éducation, elle est d'abord parentale, et on assiste aujourd'hui massivement à une reproduction des normes de genre et des normes sexuelles également, hein, dans les éducations parentales. On l'a vu récemment, hein, pas plus tard qu'il y a quelques mois, lors des cadeaux qui ont été déballés sous le sapin de Noël, si vous fêtez Noël. Mais il y a l'éducation nationale.
Pardon Arnaud Alessandra, je voudrais simplement, pour bien qu'on comprenne, pourquoi est-ce que ces stéréotypes genré dans l'éducation, dans les jouets, je vois que vous allez parler de l'éducation nationale dans quelques secondes, pourquoi ça a un impact sur les inégalités entre hommes et femmes ?
Les jouets que l'on donne aux garçons et aux filles ne sont jamais neutres. Ils développent des compétences, ils développent des appétences pour des métiers, pour découvrir l'espace, pour être en relation avec les autres, pour découvrir son propre corps. Bref, il bombarde l'enfant qui n'a, c'est vrai, rien demandé, de préjugés, de stéréotypes, de cases dans lesquelles il ou elle va devoir se confronter à des exigences sociales, à des exigences parentales, à des attentes de la société.
Alors on est en ligne justement avec une enseignante en histoire-géographie, maman de deux enfants, qui s'appelle Soline Baudévert-Vessière. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes autrice de Filles, garçons pour une éducation non genrée et sans clichés. Donc vous validez évidemment ce qui vient d'être dit et vous souhaitez qu'on en finisse avec cette éducation. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons et les jouets qui vont avec.
Oui, tout à fait. En fait, moi, je milite depuis que je suis maman pour l'accompagnement respectueux de l'enfant, pour la prise en compte du respect de son être. Et effectivement, l'éducation dite genrée va enfermer l'enfant dans des cases, dans des projections qu'on peut faire sur lui-même.
Pourquoi c'est si grave finalement ?
Eh bien parce que on respecte pas du tout ce que voudrait l'enfant. En fait, on l'enferme dans des cases, on lui colle des étiquettes et on fait ça dès la grossesse. En fait, quand au moment des échographies, on va chercher à connaître le sexe d'un enfant. On va faire des projections tout de suite sur la couleur de la chambre, sur le caractère de l'enfant, sur qu'est-ce qu'il va pouvoir éventuellement faire comme métier plus tard. Et ça, c'est vraiment influencé dès le départ.
Oui. Donc il faut en finir avec ces clichés, dites-vous. Hélène Singier, c'est vraiment déterminant, cette éducation normée d'une certaine manière, dans les rapports ensuite entre hommes et femmes dans la société. Je vais prendre des exemples un peu concrets. La différence salariale en entreprise, la différence d'acceptation d'accession à certains postes dans une entreprise, le fait que l'espace public est plus dominé par les hommes, tout ça, c'est conditionné dès l'enfance et par cette capacité qu'on a à genrer l'éducation de nos enfants.
Alors, je ne sais pas, je suis pas assez experte du sujet. Ce que je sais, c'est que ce que nous a dit Marie Durubella, qui est une sociologue que j'ai interrogée pour mon article, elle dit l'éducation. Bien sûr, si on fait une éducation moins genrée, nos enfants auront moins de clichés, oui, et seront plus épanouis, en tout cas dans cet aspect-là de leur personnalité. Mais ça n'empêche que toute la société, en fait, est marquée par le genre et par le patriarcat, qui fait qu'on a ces différences de salaire, qui fait que même une fille qui fait mécanique, elle va avoir du mal à trouver un emploi derrière. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut initier par l'éducation, mais elle dit que ça ne suffit pas parce que les stéréotypes sont partout, ils sont nichés partout dans la société.
Vous êtes d'accord avec ça, Christian Flavigny, pédopsychiatre ?
Je suis en désaccord avec tout ce qui a été dit depuis 10 minutes, un quart d'heure. Donc,
vous êtes sympa parce que vous n'avez pas manifesté d'hostilité.
Ah bah, écoutez,
en tout cas.
Non, mais je respecte le débat. Bon, l'idée de respecter l'enfant, donc en évitant de projeter, c'est d'abord une illusion parce qu'on projette forcément sur l'enfant, mais c'est surtout le priver de l'essentiel. Ce n'est pas du respect de l'enfant, c'est le priver. L'enfant, il a besoin de se nourrir de ses influences. Et il saura les contester s'il le veut. Ça, c'est le processus psychologique. Mais je voudrais rappeler quelque chose qui est essentiel, c'est la différence garçon-fille. La différence garçon-fille, je schématise, mais le garçon, pour devenir un garçon, pour s'établir dans sa masculinité, le processus, pour lui, c'est ce que l'on appelle le meurtre du père. C'est-à-dire qu'il y a le meurtre qui est là. C'est pour ça là que, effectivement, les petits garçons sont peut-être plus, je dirais, plus férus de fusils, bon, que les filles qui sont plus portées sur, effectivement, le fait de devenir des mères parce qu'elles s'identifient à leur mère, qu'elles savent que c'est un projet aussi qui peut être tout à fait gratifiant, et qu'à ce moment-là, je dirais, elles vont faire les petites mères avec leurs poupées. Donc ça n'est pas du tout une influence, ça ne sont pas des stéréotypes, c'est un processus psychologique qui porte la dynamique psychique de l'enfant, qu'il saura parfaitement contester, et je vous garantis qu'à l'adolescence, il sait le faire. Donc tout ce qu'on développe là, je dirais, c'est le fait de ne pas faire confiance, oui, à l'enfant. C'est pour ça que je suis en total désaccord.
Alors, c'est un propos qui revient aussi beaucoup, vous me tendez une perche, parce que c'est ce que pensent aussi beaucoup de Français, et notamment des militants contre cette fameuse théorie du genre. On en avait interviewé un certain nombre au moment où ça avait fait débat. Je voudrais vous partager ces quelques mots, par exemple. Écoutez.
Et les différences entre l'homme et la femme, on a nos différences, c'est le cas. La mère apporte une forme d'amour, de maternité, l'amour apporte l'enfant. Le père, il y a un côté de virilité, il y a un côté de soutien, de cadrage dans comment se défendre dans la vie. Un côté peut-être plus physique, masculin, virilité que l'enfant a besoin. Du côté de la mère, quelque chose de plus amour, tendresse, etc.
Alors certains diront, on est là dans le cliché, et puis d'autres diront, y a quand même une réalité. C'est aussi ça, la différence entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Hélène Singier ?
J'ai juste un exemple, un témoignage d'une maman qui permet de réfléchir à tout ça. Donc c'est une maman qui a une petite fille de 5 ans qui s'appelle Sacha, et elle m'expliquait que cette petite fille, donc elle lui a expliqué qu'elle avait absolument le droit de tout faire, que personne ne devait décider pour elle. Elle porte les vêtements de ses cousins et elle adore le vert parce que le vert c'est la couleur pour tout le monde. Elle a décidé d'avoir les cheveux longs mais elle n'a pas été obligée, etc. Et un jour cette petite fille rentre de l'école et dit « Bah maman, il y a une petite fille qui m'a dit que j'avais pas le droit de jouer avec les garçons parce que je suis une fille. » Et donc la mère lui dit « Tu as absolument le droit de jouer à ce que tu veux avec qui tu veux. » Et la petite fille dit « Non mais c'est pas ça le problème, c'est pourquoi cette petite fille pense ça ? C'est un énorme gâchis de se priver de jouer aux dinosaures et à se courir après. »
C'est vrai que,
donc, en fait,
je rejoins sur ce que vous dites, c'est un lieu commun mais qui existe. Quand on voit dans plein de familles un petit garçon qui joue avec une poupée, souvent on lui dit « je ne joue pas avec une poupée, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons. »
Et c'est là où les parents disent c'est une assignation et que c'est une forme d'aliénation, oui, parce qu'on impose des choses aux enfants.
Non, on n'impose rien aux enfants. Le fait qu'un garçon ait envie de jouer avec des poupées et de jouer avec sa sœur, par exemple, et de jouer au papa et à la maman, et même éventuellement... Non, ça, je dirais, là vous plaquez un stéréotype. C'est vous qui plaquez, je dirais, une idée qui est que l'enfant ne serait pas... Je dirais faire avec ça, entériner un certain nombre de messages, d'influence en effet. Mais l'influence décisive pour l'enfant, c'est pour le petit garçon, le fait de désirer que son père a sans doute le secret pour devenir un homme et un père. Et c'est ça qui fait l'identification, qui va le porter. Et l'identification est un canevas et un processus dont il ne faut pas le priver. C'est ce que je conteste dans votre manière. D'autant qu'il sera parfaitement contesté, c'est la manière du père. C'est ça qui est essentiel. Mais il aura l'essentiel, c'est-à-dire une référence dont il a besoin. C'est exactement comme le fait d'un tuteur pour une plante, si vous voulez. C'est ça qui lui permet de grandir.
Alors, Arnaud Alessandrin, sociologue, spécialiste des questions de genre, réaction peut-être à ce qui vient d'être dit. Et puis à cette citation que j'ai trouvée dans le 1, qui m'a aidé à préparer cette émission de débat. Le sociologue Kevin Dieter.
Dieter,
merci pour la prononciation, dit ceci: un individu refait l'histoire en intériorisant les normes qu'il a intégrées, donc il faut garder à l'esprit que le genre est un système. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ?
Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois que nous assistons, dans le débat que vous organisez là, à un résidu de résistance de la psychanalyse vis-à-vis des normes de genre, vis-à-vis des attentes du masculin et du féminin. Et pour reprendre la citation que vous employez, je crois que je vais répondre par une citation, permettez-le-moi, d'une amie philosophe, Brigitte Estève Belbeau, qui disait vis-à-vis du genre que le genre est ce que l'on fait de ce que l'on a fait de nous. Mmh. Et c'est vrai que la société fait plein de choses de nous, que les parents font plein de choses de nous, et que de ce genre, on peut quand même le travailler, indépendamment des normes masculines et des normes féminines. C'est ça qui permet justement aux personnes homosexuelles, mais aussi aux féministes, mais aussi aux personnes trans, non-binaires et gender fluides, d'avoir une vie vivable.
Bien. Après... C'est normal et c'est sain dans le débat public qu'on entende évidemment tous les avis. Est-ce que vous diriez, Arnaud Alessandrin, qu'il y a un clivage social sur cette question de genre, que les familles de milieux populaires sont plus attachées par exemple aux stéréotypes que les familles plus bobos, on va dire ?
Alors écoutez, les chiffres ne montrent absolument pas ça. Les chiffres montrent plutôt qu'il y a des catégories professionnelles, des catégories familiales et pas des catégories sociales qui sont arc-boutées sur des normes de genre. Par exemple, quand on regarde qui était en première ligne lors du mariage pour tous, on avait plutôt des médecins et du côté des universitaires, on avait plutôt des étudiants en médecine et en droit. On peut pas dire que le recrutement de ces étudiants soit excessivement populaire, mais d'un autre côté, vous avez raison, quand on regarde les lycées les plus populaires, notamment les lycées marqués par des métiers très professionnels et très masculins, on voit apparaître des chiffres du sexisme et de l'homophobie particulièrement hauts. Faisons donc attention aux généralisations, particulièrement à ces généralisations en termes de classe sociale qui ne disent sur cette question pas toute la vérité.
D'où ça vient cette évolution sur la question du genre, Hélène Saint-Gier ? Pourquoi tout d'un coup on en parle de plus en plus ?
Alors, le sociologue Éric Massé nous explique ça dans le numéro du 1. Il explique en fait que le genre a été mis en place par le patriarcat grec, romain, juif, etc. Et qu'en fait, dès le 18e siècle, ça a commencé à être mis en cause avec Olympe de Gouges, les premiers féministes, le mouvement queer, le mouvement trans, le mouvement gay, etc. Et en fait, il dit que ça s'est déconstruit petit à petit de manière laborieuse, parce que c'est quelque chose qui est très, très ancré dans les sociétés. Et il dit même le droit a déconstruit cela. C'est-à-dire que les femmes ont obtenu le droit de vote, elles ont obtenu le droit de disposer de leur corps dans les années 70. Ensuite, on a instauré le fait qu'il n'y avait pas de discrimination envers les personnes trans, par exemple. Oui. Et puis aujourd'hui, les notions de procréation, de famille, de parents, n'inclut plus la question du genre. On peut être parent en étant deux hommes, deux femmes, ni homme ni femme, etc. etc.
Alors, il y a un domaine aussi dans lequel les clichés ont parfois la vie dure. Vous me direz si vous êtes d'accord et que ça participe aussi à conserver cette différence de genre dans la société. C'est la publicité. Je voudrais vous faire écouter, parce que ça fait toujours sourire, une publicité pour un célèbre produit de nettoyage qui date d'il n'y a pas si longtemps, c'est en 2012, écoutez.
À la disparition du vieux roi, il fut décidé que celui qui réussirait à nettoyer le chaudron noirci monterait sur le trône. Beaucoup essayèrent en vain, jusqu'à ce qu'un mystérieux chevalier arrive muni de cif crème. Le chevalier fut alors couronné reine du royaume.
Voilà, le chevalier qui arrive à nettoyer devient une reine. Il y a quand même un petit côté un peu cliché, Christian Flavigny, là-dedans.
Oui, mais il y a des repères, si vous voulez. Et l'enfant a besoin de ces repères. Moi, ce que je conteste dans tout ce qui est dit, c'est que vous parlez d'une révolution et vous insistez beaucoup là-dessus. Non, il s'agit d'une importation d'une théorie américaine. La société américaine est très normée. Mmh. Et d'une certaine manière, moi, j'approuve les militants américains qui ont dénoncé ces normes aux États-Unis. En France, ce n'est absolument pas le cas. Ça n'a absolument rien à voir. parce que la culture est tout à fait différente, parce qu'il y a une compréhension psychologique que n'ont pas les Américains. J'insiste sur le fait que moi, je soutiens évidemment la possibilité que le regard d'autrui ne soit pas gênant dans la vie sociale pour la différence. Ça, c'est essentiel, mais moi, je dis que la manière de le faire, la manière de le gérer, n'est pas avec je dirais, cette espèce de catégorisation qui vient de la manière américaine,
oui.
et qui doit venir je dirais, de notre culture, qui est une culture dont on sait qu'elle a toujours été respectueuse, finalement, des différences.
Mais ce que vous pointez, ce sont les excès importés de la culture américaine, mais vous ne niez pas la problématique des genres entre les hommes et les femmes.
Moi, je dis que le terme de genre ne convient pas.
Le
terme de genre est un terme américain. C'est la traduction de gender qui est une traduction inappropriée.
Bon, on aura entendu tous les avis donc ce soir. Merci à vous, Hélène Saint-Gier. Je rappelle que c'est à la une donc de l'hebdomadaire Le 1 avec des entretiens, des enquêtes, des témoignages aussi, et puis toute une partie qui nous a beaucoup inspiré ce soir sur l'éducation notamment. Merci,
merci
de votre présence.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, l'heure des archives d'Europe Soir. C'est un moment, je le sais, que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience. Le jour où, 3 minutes pour comprendre.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Et ce soir, c'est avec vous, Caroline Baudry, bonsoir.
Bonsoir, Julien.
Alors, on remonte 30 ans en arrière, le jour où démarrait l'affaire Rodney King, ce jeune homme afro-américain tabassé par la police à Los Angeles, 3 mars 1991. Il est devenu la figure des émeutes raciales de Los Angeles.
Oui, ces émeutes raciales parmi les plus meurtrières qu'ait connu l'Amérique, 53 morts et 2300 blessés. Tout part d'un document diffusé en boucle sur les chaînes d'information américaines. Une vidéo amateur de 9 minutes enregistrée par un voisin réveillant en sursaut dans la nuit. Sous sa fenêtre, Rodney King, 25 ans, passé à tabac, comme le décrit Benoît Laporte, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
On y voit 4 policiers blancs s'acharner à coups de matraque sur un homme à terre et sans défense. Cet automobiliste noir venait d'être arrêté pour excès de vitesse après une course-poursuite. En moins de 2 minutes, il a reçu 56 coups de bâton. Il a eu des fractures au visage et une jambe cassée.
Et ces 4 policiers sont d'abord suspendus, mais au terme d'un procès, l'année suivante, les voilà acquittés. Face à Rodney King, toxicomane et déjà condamné pour braquage, leur usage de la violence n'est pas jugé excessif.
Oui, on connaît la suite, hein, ce verdict, Caroline, déclenche la colère de la communauté noire à Los Angeles.
Oui, immédiatement, les émeutes éclatent, notamment dans un quartier noir, pauvre de la ville. L'état d'urgence est déclaré, un couvre-feu est instauré, le siège de la police est attaqué. Au milieu de la nuit, heure américaine, Claude Guénière est en direct depuis Los Angeles sur Europe 1.
Bien, on en est qu'il est 3h30 du matin, qu'il y a environ 150 incendies dans ce quartier de Los Angeles, que l'on appelle South Central, qui s'en allume de nouveau chaque minute, que les hélicoptères de la police ou de la presse qui survolent la zone des émeutes ont essuyé des coups de feu, que les pompiers ne peuvent pas sans protection s'approcher de certains foyers parce qu'on leur tire dessus. C'est tout simplement hallucinant. Une partie de cette ville, une des plus modernes du monde, est en feu, soumise au pillage, on tire dans les rues.
Et le lendemain matin, il raconte le choc de la révélation des dégâts.
Une zone de guerre, des supermarchés incendiés qui brûlent encore, des vitrines explosées, des magasins pillés, des carcasses de voitures calcinées, des immeubles de bureaux détruits. Et flottant sur toute la ville, une épaisse fumée noire qui pique la gorge et les yeux. Au milieu des débris, il y a beaucoup de tristesse. La communauté a honte de l'image qu'elle vient de donner. Cela dit, les Blancs ont sans doute honte du verdict.
En tout, 600 bâtiments seront détruits. Les réparations estimées à 1 milliard de dollars. Le jour même, Rodney King prend la parole à la télévision lors d'une conférence de presse.
Can we get along?
Est-ce qu'on ne pourrait pas tous s'entendre, dit-il d'une voix, vous l'entendez, tremblante. Appel au calme également du président Bush qui demande à la justice de reprendre les poursuites contre les policiers.
Et un an plus tard, Caroline, un nouveau procès s'ouvre contre ces fameux 4 policiers.
Oui, avec cette fois cette épineuse question des jurés. Il n'y avait aucun noir parmi ces 12 citoyens américains sélectionnés lors du premier jugement. Cette fois, il y aura un homme et une femme noire à l'issue d'une sélection difficile.
Des efforts particuliers ont été faits pour protéger les jurés dont la sélection commence aujourd'hui. Leur identité restera secrète. Pendant les 2 mois du procès, ils resteront bouclés dans un hôtel aux frais de l'État sous protection renforcée. Même leur courrier personnel sera soumis à la censure. Le verdict fera sûrement des mécontents, mais les autorités espèrent cette fois-ci éviter tout débordement.
Et alors des débordements, il y en aura, mais de joie dans la communauté afro-américaine à l'annonce du verdict. Deux des quatre policiers sont jugés coupables d'avoir violé les droits civiques de Rodney King. Ils seront condamnés à 2 ans et demi de prison et la ville devra verser 3,8 millions de dollars de dédommagement à Rodney King.
Merci Caroline pour ce récit, les archives. C'était Caroline Baudry ce soir.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, restez avec nous dans un instant. Julien Pierce pour le rappel de l'info dans Europe 1, sur Europe 1, c'est mieux de dire ainsi. Et puis Isabelle, Émilie Mazoyer, j'allais vous appeler Isabelle, décidément ce
vous
soir je suis fatigué.
Ça va, j'aime bien Isabelle
Comment
Millet.
Ça va Émilie?
Ça va et vous Julien?
Bah oui, ça va pas mal. Quel est le programme ce soir?
Bah c'est pour ça que ça va même très bien. Ah. Puisque ce soir, mon invité, c'est Julien Clerc.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur.
Il a sorti il y a une quinzaine de jours son nouvel album, qui est une merveille, qui s'appelle Terrien, avec des textes signés Jeanne Chéral ou encore Clara Luciani. Ça, c'est la chanson que vous entendez, Mon Refuge. Et Julien Clerc sera avec nous pour une interview, comme tous les soirs, ici dans Musique, mais en plus une session de deux titres.
Eh ben,
on a de la chance, hein.
Ouais, merci Émilie.
Isabelle, comme vous voulez.
Belle émission. Arrêtez, vous allez me troubler, du coup je vais me tromper. Merci Émilie. Allez, Julien Pierce pour le rappel de l'info dans quelques secondes. Et puis la musique avec vous Émilie, on vous retrouve avec grand plaisir. Merci de votre fidélité. À demain 18h.